Vous écoutez France Culture.
Sur les docks. Pour ce dernier rendez-vous documentaire de la saison 2010-2011 et avant les rediffusions de l'été, chaque soir du lundi au vendredi à 21h, nous avons fait le choix de vous entraîner dans l'Aude, au sud de la France. Certains des auditeurs de Radio France ont déjà écouté les enquêtes menées sur la Bessonnière et les extraordinaires mystères qui l'entourent, racontés tant par Robert Arnault sur France Inter que par le vif du sujet sur France Culture. Sur le territoire de l'Aude, on raconte que des recherches ont été diligentées par de mystérieux soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Une association, l'ODS, pour Œil du Sphinx, a produit plusieurs textes et ouvrages sur les incroyables phénomènes constatés dans la région. Des colloques ont été organisés par Jean-Luc Robin chaque été sur la colline magique de Rennes-le-Château, où il décéda lors des élections municipales. Bref, un territoire singulier et un image fertile, créant en France un lieu d'exception où, depuis quelques années, les chercheurs de l'invisible ont repéré une nouvelle énigme. Préparez-vous à entendre les mots « vortex », « hologramme quantique », « chakra ». Souvenez-vous que, selon les Mayas, la fin de notre monde arrivera le 21 décembre 2012 et que, dans cette catastrophe annoncée, telle l'arche de Noé, un seul lieu pourra servir d'asile, et c'est précisément le Bugarache, où Jenny Rivière nous sert de guide.
Vous savez, moi, le maître mot de ce changement de temps, de ce changement de rythme, c'est l'amour.
Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient persuadés que le mont Bugarache était une porte temporelle. En 2012, Bugarache va être préservé et seuls les gens qui l'auront mérité seront sauvés des tsunamis gigantesques qui vont ravager la France.
Bugarache ou les secrets du vortex. Olivier Chaumel, Rafik Zénine.
Cette montagne, on l'appelle la montagne inversée. À la naissance des Pyrénées, quand les Pyrénées sont montées, toutes les couches se sont retournées. Ensuite, sous ce pic, il y aurait effectivement une masse ferreuse importante qui fait que quand on place la boussole, elle ne vous indique pas complètement le nord. Et puis ensuite, il y a des gens qui prétendent que c'est miraculeux de monter au pic, parce que quand ils montent, ils sont d'une certaine façon, et quand ils redescendent, ils sont ressourcés, ils sont différents, ils ont été miraculés, notamment ici, il y a une femme qui est venue spécifiquement habiter ici, parce que quand elle était montée la première fois au pic, elle était stérile, et quand elle est redescendue, elle a eu des enfants.
Mais quand on voit cette masse rocheuse, il suffit de sortir de la mairie et de regarder à droite, on comprend que ça fasse naître des fantasmes ou des histoires ou des légendes, parce que là, c'est pas du tout une montagne anodine, physiquement. Elle a quelque chose de particulier.
Ben, elle a déjà quelque chose de particulier dans la mesure où c'est le point culminant des Corbières. Ensuite, quand on la regarde et qu'on a un peu d'imagination, on y verra des choses.
Hein, mais quel genre
y a ce qu'on appelle la pique grosse. En fait, on l'appelle, les gens l'appellent le Bouddha, hein, parce que il a une stature de Bouddha. Et quand on regarde un peu plus loin, on voit une personne qui regarde le ciel, hein, qui est couchée et qui regarde le ciel, et d'autres choses et d'autres choses.
Bugarache est une commune de 200 habitants dans l'Aude. C'est aussi le nom de la curieuse montagne qui surplombe le village. Ce nom bizarre viendrait, selon les pistes, de Bulgares qui seraient passés dans le secteur, ou signifierait bourg de l'Arche ou encore bruyère. La région recèle quantité d'histoires troublantes. Par exemple, on s'aperçoit sans peine que le sommet du Bugarache se trouve très exactement sur la ligne parallèle à l'équateur qui relie le château cathare de Montségur à celui de Perpertuse. Et ça n'est là qu'un petit mystère. À un jet de pierre du Bugarache se trouve Rennes-le-Château. Le brave et modeste Béranger Saunière était curé de ce village. En 1891, Il entra en possession de fabuleuses richesses dont la provenance n'a jamais été élucidée. La Bessonnière fut emportée avec son secret en 1917. De nos jours encore, quantité de chercheurs amateurs épluchent les documents le concernant et viennent creuser, truelle en main, les flancs des collines alentour. Cette fortune, aussi colossale que soudaine, implique pour certains l'intervention de forces surnaturelles, venues d'ailleurs, extraterrestres sans doute, et ne serait pas sans lien avec l'énergie supposée de la montagne voisine, le Bugarache. Le coin est riche de rebouteux et guérisseurs, d'initiés de toutes sortes, d'observateurs de phénomènes inexplicables. Il ne sera d'ailleurs pas question de mettre en doute la sincérité et la bonne foi de ces derniers. Laissons-nous aller à ressentir dans nos cœurs, dans nos âmes, la formidable puissance du vortex tellurique qui surgit là. La montagne magique a aussi la réputation de perturber sévèrement les appareils électroniques. Elle a été clémente avec nous. Notre appareil de prise de son a fonctionné correctement, y compris sur le Bugarache, dont l'ascension par le sud, notons-le, est déconseillée aux randonneurs inexpérimentés.
On respire, Jenny Rivière. On s'apprête à gravir cette montagne, le Pêche Bugarache, dans l'Aude, à la limite des Pyrénées-Orientales. Il y a un peu plus de 450 mètres de dénivelé jusqu'au sommet.
Oui, un peu plus à partir d'ici, ouais. Oui.
Ça fait une tour Eiffel et demie.
Non, mais c'est 1200 mètres, plus de 1200 mètres. Donc à partir d'ici, on a à peu près 700 mètres à monter.
Ouais. Tant que ça. Ah oui.
Parce qu'on part du sud, par le sud.
Ouais. Le versant le plus raide.
Le versant le plus raide et le versant le plus intéressant.
Pour quelle raison ?
Déjà, il faudrait commencer par le commencement, que cette montagne se trouve en fait sur des grandes lignes de force de la Terre. Vous savez, c'est un petit peu comme les lignes qu'on a sur le corps, comme nos méridiens avec des points importants sur notre propre corps. Et comme tout est relié, comme on est relié à ce qui se passe sur la Terre, comme on est relié à ce qui se passe dans l'univers, il y a ces mêmes lignes, comme on en entend beaucoup parler de ça, même de l'hologramme quantique. Hein, donc c'est une grande grille énergétique qu'il y a autour de la Terre. Et ça passe par des différents axes avec on pourrait dire, des routes principales et des routes secondaires. Ici, on semble se trouver sur une route principale avec un point très important qui est cette montagne et qui est reliée à d'autres points sur la Terre, comme il y en a beaucoup, comme en Égypte, sur le plateau de Gizeh, au niveau des pyramides, etc. Donc c'est des grandes lignes qui sont reliées entre elles. Alors pour une raison qui serait certainement compliquée à expliquer, et puis les scientifiques le feraient davantage que moi.
Ça a toute l'apparence d'une promenade initiatique.
Voilà, on peut dire ça, et c'est intéressant que vous disiez ça, parce que c'est bien de l'aborder de cette façon-là. Enfin, c'est mieux. Alors pour ça, moi, pourquoi j'ai entrepris ce travail-là, ça s'est fait absolument tout seul. C'est parce que tout mon parcours a été un petit peu peut-être particulier, comme bien d'autres personnes, mais c'est surtout à la suite d'un accident de voiture. J'ai eu un accident de voiture très grave.
J'étais et en fait,
j'étais un petit peu en morceaux. Et puis après cela, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à percevoir la vie tout à fait différemment, trouver un autre sens. Et petit à petit, comme je pratiquais déjà la méditation, j'ai encore beaucoup plus pratiqué la méditation, le Qigong que j'enseigne, qui est vraiment une pratique taoïste de santé, mais au-delà de ça, on va percevoir les énergies. Donc de plus en plus, j'ai eu des capacités. C'est assez impressionnant tout ce qu'on peut percevoir et voir ici. On peut voir des choses dans l'invisible. Moi, je suis convaincue que toutes ces choses-là, tout le monde va avoir la capacité de les percevoir dans quelques temps.
Mais elle ressemble à quoi, celle que vous voyez ?
On voit déjà l'énergie, des manifestations d'énergie, des couleurs différentes, enfin différentes couleurs, et puis aussi, je pourrais dire, d'autres formes de vie qu'on prend en photo. Donc des photos de formes de couleurs qui sortent même de la Terre. Du violet, comme des gerbes de couleurs. Ça, sur les appareils photo, on en prend beaucoup. ce qu'on appelle les boules lumineuses aussi. Donc il y a comme des mandalas qui sont partout dans la forêt. Et puis aussi, on peut parfois percevoir aussi tous les petits êtres qu'il y a partout dans la nature.
L'intérêt de cette montagne, Philippe Marlin, c'est aussi qu'elle est belle.
Je crois que c'est son principal intérêt. Ce qui est frappant, c'est la richesse du légendaire local autour de Bugarrache, enfin la région. On dessine un rectangle de 10 km de long sur 8 km de large, ça fait 80 km carrés. Sur ce rectangle de 80 km carrés, vous avez Rennes-le-Château et le trésor de la Bessonnière. Vous avez le Pêche-Bugarrache qui est notre sujet aujourd'hui, mais vous avez aussi le Mont Cardou, l'un des endroits où se trouverait le tombeau du Christ. Et puis, vous avez la commune de Rennes-les-Bains, qui elle aussi trimballe un légendaire assez lourd, avec notamment son fameux abbé Boudet au XIXe siècle, qui était le contemporain de l'abbé Saunière, et qui écrit un ouvrage absolument extraordinaire, qui s'appelle « La vraie langue celtique » ou « Le cromlech de Rennes-les-Bains ». Alors, et la vraie langue celtique, c'est dans cet ouvrage, il explique... L'origine, la langue primordiale, c'est l'anglais, de façon très sérieuse. Et donc, il fait le tour du légendaire local, c'est-à-dire des roches, c'est-à-dire des arbres, c'est-à-dire des grottes, c'est-à-dire des avennes, c'est-à-dire des dolmens et des menhirs et des pierres levées qui croient voir, peut-être dans des sécrétions naturelles. Vous avez le fauteuil du diable, vous avez la source des deux amours, vous avez le chemin des fées, enfin tout y est quoi. Dans ce tout petit rectangle, enfin c'est... Uh-huh.
Plus le Bugarrache.
Ça fait beaucoup.
Jean-Luc Rivera.
C'est un sujet d'étude passionnant pour la sociologie, puisque là on voit un mythe. On assiste à la construction d'une mythologie contemporaine, donc c'est tout à fait fascinant. Et c'est vrai que lorsqu'on déambule dans les rues de Rennes-les-Bains, qui est un petit village absolument magnifique autour de la Salse et qui se trouve vraiment au pied du Bugarrache, on voit aujourd'hui, pour ceux qui s'en souviennent, les restes des derniers hippies. C'est absolument hallucinant. Moi, j'ai l'impression de revenir aux années 60. On voit des hommes barbus en sandales, avec des ponchos, des femmes vêtues de jupes colorées, de corsages couverts de chaînes et de bijoux en bois, etc. Les odeurs d'encens et les marchands de cristaux le jour du marché, il y a quelque chose là qui les attire. Vous dire quoi, je ne le sais pas. Est-ce que c'est véritablement la magie du lieu ? Peut-être qu'il y en a une, après tout. Peut-être qu'il y a bien des vibrations, quelque part. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça attire vraiment des gens qui se mettent en méditation pour rentrer en contact avec l'esprit de Gaïa et les bonnes vibrations des vortex magnétiques qui doivent abonder à cet endroit-là. Donc vraiment, on est là dans un lieu qui est, à ma connaissance, avec peut-être Sedona en Arizona, l'un des derniers lieux où on trouve toute cette faune, et ça n'est pas péjoratif, mais toute cette faune et cette foule de gens qui cherchent un mieux-être ou un bien-être à travers des techniques autres que celles qui sont apportées par notre monde moderne et matérialiste.
Dans votre livre qui s'appelle « L'appel du Bugarrache », Jenny Rivière, sous-titré « Vortex de la Terre »,
oui.
Vous insérez des photos de formes rocheuses de cette montagne.
Oui, ça on va les voir un petit peu plus tard. Oui, ouais. Il y a beaucoup de formes un peu particulières. Voilà.
Un peu plus loin, il y a le phallus.
Oui, parce que comme cette montagne est creuse, il y a un côté qui est très féminin, donc il y a beaucoup de représentations féminines, et de l'autre côté qui est masculin. Donc c'est sûr que là, si on continue jusqu'en haut, vous verrez cette, ce phallus, oui, on voit, c'est très net, c'est très bien dessiné, comme si c'était sculpté dans la roche. Il y a beaucoup d'autres choses.
Le côté masculin est plutôt au nord, alors ?
Il est sur la droite, ici, en partant du sud, et le côté féminin, il est sur la gauche. Ouais, en partant du sud de la montagne, voilà.
Qu'est-ce que vous appelez vortex ?
Le vortex, c'est une des portes principales. En fait, c'est une spirale. L'énergie, c'est une spirale. Toute l'énergie est en spirale, partout, en nous, autour de nous et dans la nature. Et le vortex est une immense spirale d'énergie qui a un rôle essentiel sur la planète, sur notre planète. Donc, il y a beaucoup de vortex un peu partout sur la Terre, des vortex plus anciens que les autres. Et c'est des vortex qui sont reliés à l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel. C'est comme une porte qui se trouve entre ces deux grandes énergies et qui active tout un ensemble de choses. Je pense que les vortex sont essentiels à notre vie. Je pense que tout ça, c'est essentiel à maintenir une cohésion sur la Terre. Les anciens le savaient bien, cela, puisque les druides allaient réactiver des menhirs, etc., qui sont, eux, des aiguilles d'acupuncture. Et tout ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien, sur des lignes. Moi, ce qui m'intéresse, pour moi, avant tout, c'est l'énergie de ce lieu. Moi, je sais que c'est excessivement nourrissant, que ça transforme, que ça nous donne un autre regard, une autre ouverture et puis une joie de vivre assez extraordinaire.
Il va falloir mettre en œuvre l'énergie intérieure aussi parce qu'il reste pas mal de
et puis marcher doucement.
Logion 45. Le pic du Bugarache, le vrai Mont Sillon, recèle la porte de la connaissance du bien et du mal. Cette montagne, Tichelour, est le mont Hermon de la fin du temps. Le véritable Kissé Amachié, c'est-à-dire le trône du Messie qui approche. Sur chaque planète habitée de l'univers infini, existe une montagne prédestinée qui a la fonction d'un terminal qui permet de se relier, de se connecter sur la banque de données cosmique, l'Akasha. La mémoire universelle, la connaissance des secrets sidéraux. Cette montagne est le septième chakra de la planète en question. Sur Terre, il s'agit du mont Tichelour, le pic du Bugarache. Un initié, doté du sens subtil de la clairvoyance, peut percevoir dans le plan invisible de la montagne des millions de petites cases bleues et or, d'aspect ellipsoïdal, à la façon des myriades de cellules qui forment le corps d'un organisme gigantesque. C'est le livre de vie, la porte suprême, le vortex, qui s'ouvre tous les 25 000 ans pour la mutation du genre humain. Jean d'Argoun, Bugarache, la montagne sacrée.
Bonjour. Bonjour. Nicolas Marlin ?
Oui.
Vous n'êtes pas le seul libraire dans ce petit village ?
Il y a une autre boutique qui s'est montée bien après nous, oui.
C'est une librairie générale ou principalement ésotérique ou spécialisée d'une quelconque manière ?
Ésotérisme, régionalisme, livres anciens d'occasion, tous les sujets ayant un trait à la région.
Ouais.
Templiers aussi.
On peut faire le tour des rayonnages ?
Bien sûr. Toute la partie importante de Rennes-le-Château, vous allez retrouver ici.
Oui.
Qui est une littérature vraiment prolifique, qui n'arrête pas.
Jules Verne est convoqué, Maurice Leblanc.
Boudet, Gérard de Sède. On retrouve tous les classiques.
Dan Brown est là aussi.
Et même 2012, Bugarache.
Alors de quoi s'agit-il ?
Un DVD sorti en fin d'année dernière sur les événements prédits à venir de 2012 avec différents intervenants. Vous retrouvez aussi une littérature sur Bugarache derrière, pas mal de petites choses.
Avec le célèbre Jean d'Argoun.
Exactement. On continue tout droit, le rayon des arts divinatoires, radiesthésie, cartomancie. Senteur aussi, bien-être. Ici, on retrouve encore un peu de 2012 aussi, de code Maya.
Barbara Anclos, le code Maya.
2012, La fin d'un monde.
Un best-seller.
Il y a une littérature abondante, en fait.
Non, mais ça n'arrête pas. Je dois en recevoir encore plein. Ça continue en permanence. Vous verrez, en dessous, on passe au New Age, on va dire. Développement personnel New Age. Les civilisations englouties, disparues. Le thème de l'Atlantide, de la Guerta, évidemment. Ensuite, on passe dans la religion. Religion traditionnelle et puis religion un peu plus sulfureuse, les apocryphes et autres. L'évangile de Marie-Madeleine, notamment, pour ne pas le citer. L'évangile de Judas. Et pour finir, le catharisme.
Vous vous êtes intéressé aux origines de ces légendes superposées, Philippe Marlin?
Ma passion, c'est l'étude des mythes et la... Comment les mythes se fabriquent. Et le Bugarach, ce qui est formidable, c'est que, le Bugarach, c'est un mythe tout à fait récent. Moi, j'ai retrouvé l'origine du mythe de Bugarach dans ce bouquin d'Elisabeth Van Buren, Refuge of the Apocalypse, Doorway into Other Dimensions. Alors, Van Buren fait de la cosmologie et de la géographie sacrée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Elle reste une carte de la région, et cette carte de la région lui fait penser que cela représente des constellations célestes. Et elle part sur l'existence d'un temple céleste, et elle se dit, à ce temple céleste doit correspondre un temple souterrain. Et c'est là que commence à apparaître cette idée que le Bugarach cache un temple souterrain, qu'il y a des souterrains, etc. etc.
Et à votre avis, comment et pourquoi ça prend?
Ça ne prend pas tout de suite. Il va falloir attendre une dizaine d'années, donc une dizaine d'années, c'est 1996, pour que cette affaire soit relancée par l'écrivain de science-fiction qui était bien connu à son époque, qui publiait au Fleuve Noir, Jimmy Dieu. Et Jimmy Dieu, outre le fait d'être un écrivain de science-fiction, était un ufologue, un passionné par les ovnis, et puis de façon plus générale, passionné par tous les grands mystères. Il a rencontré un certain nombre de personnages, et puis on dérape très vite en disant, en plus, cette montagne, elle est creuse, et en fait, ça c'est la thèse de Jean de Régny, elle abrite une base d'OVNI, un garage d'OVNI, et c'est quelque chose d'absolument truculent, puisque Jean de Régny explique qu'il a enregistré les bruits des ateliers d'entretien, de réparation, etc. Et donc il fait écouter à qui voulait bien lui prêter oreille ces enregistrements mystérieux, dont il a été prouvé après que c'était le bruit du moteur du magnétophone qu'on utilisait à l'époque. Hein. C'était des grosses machines avec des grosses bandes. Et donc voilà. Et puis alors ensuite, donc ça c'est Jean de Rigny, mais le brave Jimmy Dieu embraye tout de suite. Et ensuite, autre personnage très intéressant, c'est Jean-Michel Thibault, qui, ayant été fonctionnaire dans les services militaires et services de renseignement, avant de devenir écrivain, va brancher tout de suite les tuyaux sur « Ouh là 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 là, c'est mystérieux, on nous cache quelque chose, ça sent la conspiration, on y voit des agents du Mossad, on y voit des agents de la CIA, on cherche quelque chose, le Mossad, les Israéliens, mais ça serait pas l'Arche d'Alliance, ça serait pas la Ménorah, ça serait pas le trésor du Temple de Salomon. Et puis les avions, ils peuvent pas passer au-dessus du Bugarach parce que il y a des tempêtes magnétiques. Non, vraiment, il se passe quelque chose. Hein. Donc là, c'est 96.
Au risque de démolir une partie du mythe, je me suis adressé à l'aviation civile qui m'a dit qu'il n'y avait aucune restriction sur le survol du secteur.
Dont acte, mais je vous raconte le mythe et puis vous me le cassez.
Des amis qui sont dans les sphères officielles, évidemment je tairai le nom, vous comprendrez pourquoi, ont amené un de leurs amis qui était en Amérique à la NASA. Ils sont venus avec un appareil de détection souterrain.
Magnétomètre.
Un magnétomètre à protons, mais doublé de VHL. Enfin, c'était. Il paraît qu'il n'y en avait que 7 dans le monde à l'époque. Et il s'est avéré qu'une fois la cassette passée à l'ordinateur et à l'imprimante, nous avons eu la radiographie du sous-sol. Il se trouve qu'à 25 mètres de profondeur, il y a une coupole métallique, entre guillemets, qui fait 30 mètres de long sur 15 mètres de large, d'une forme ellipsoïde avec 1 mètre d'épaisseur et 3 mètres de flèche. Alors naturellement, ce n'est pas une construction humaine.
Et ce serait quoi, selon...
C'est une des constructions de la base spatiale qui se trouve ici en dessous.
Une base souterraine extraterrestre.
Une base souterraine extraterrestre qui s'étale sur des kilomètres des kilomètres.
Et est-ce que c'est en corrélation avec Bucarache?
Oui, oui. Seulement, je ne sais pas qui se tient à Bucarache au point de vue extraterrestre. Ceux d'ici, je le sais. Ça, ce sont des gars qui viennent d'Orion.
Mais ça, quel est leur aspect?
C'est un aspect humain.
D'apparence humaine.
Donc... exactement ceux de la Bible. Ah, ce sont ceux de la Bible.
Ce qu'on appelle voilà. Les Elohim.
Ce qu'on appelle les Elohim, ah, oui. C'est ceux-là qui sont ici.
Jean de Rigny et Jimmy Dieu, Le Grand Mystère, 1996.
Chacun, quelque part, renforce l'autre. Hein, parce que plus on en rajoute et mieux c'est. D'autant plus que ce qu'on rajoute est toujours invérifiable, puisque naturellement tout ça est sous le couvert du secret. Les gouvernements nous cachent tout, nous le savons bien. Hein. Et donc, à partir. Alors, la question qu'il faut se poser toujours, c'est comment ces auteurs réussissent à connaître ces secrets qui sont si bien gardés et qui normalement sont mortels, sauf pour eux. Ils sont les seuls à survivre à la révélation de cela, mais c'est comme ça qu'on peut apprendre aussi que le président Mitterrand venait en hélicoptère explorer le Bucarache, qu'il y a eu des missions de la NASA, des missions du Mossad, des fouilles archéologiques, des manœuvres militaires de l'armée française. Ce qu'il y a de formidable avec tout ça, il faut le reconnaître, c'est qu'effectivement, le secret était absolu, puisque personne sur place n'a jamais rien vu, qu'on ne retrouve jamais aucune trace dans les journaux ou même en discutant avec les habitants, etc. Mais fort heureusement, ces auteurs-là, eux, ont eu accès à la vérité, vérité avec un V majuscule, hein, naturellement, et peuvent nous la révéler. Malheureusement, on ne voit jamais, enfin à ma connaissance en tout cas, hein, on n'a jamais vu les photos du satellite espion américain qui serait, paraît-il, braqué en permanence sur le Bucarache pour le surveiller 24 heures sur 24. On n'a jamais rien vu de tout ça. C'est toujours invérifiable. On peut dire ce qu'on veut. Je suis étonné que personne n'ait encore dit que le pape Jean-Paul II était venu secrètement se recueillir sur la tombe de Jésus à côté du Bucarache. C'est très étonnant. Je suis sûr qu'il l'a fait quelque part, mais qu'on n'en a rien su.
Pierre Guillain, vous accompagnez cette promenade
avec grand plaisir.
Sur les flancs du Bucarache. Vous m'avez dit que vous étiez géobiologiste.
Géobiologue, oui. Oui.
Géobiologue. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça consiste et les raisons qui vous amènent ici?
La géobiologie, c'est l'étude du vivant dans son environnement. Donc c'est étudier tout ce qui vit, que ce soit les plantes, les hommes bien entendu, les animaux, et leur relation avec le milieu environnant. Et je suis venu ici, en fait, c'était un peu un hasard. J'ai entendu parler de Bucarache en 2004, et le seul fait d'avoir entendu Bucarache, tout de suite j'ai eu envie d'aller à Bucarache, et c'était...
Rien que par la sonorité du mot?
Par la sonorité du mot, finalement, le mot Bucarache m'a attiré, et tous les ans, je suis venu à Bucarache, et j'ai rencontré Jeanne Rivière il y a 4 ans.
Et à part Jeanne Rivière, vous avez trouvé quoi de particulier sur le mont Bucarache?
L'énergie du lieu. L'énergie du lieu que je trouve particulièrement forte et intéressante, parce que bon, quand je reviens d'un lieu pareil, je suis rechargé en énergie et particulièrement en forme physique.
Vous suggériez tout à l'heure, un peu plus haut sur la montagne, que les Allemands, pendant l'occupation, étaient venus chercher des choses, peut-être.
Ah bah alors ça, je sais tout bêtement que, a priori, Hitler a envoyé des légions, enfin des SS ici pour ratisser le lieu, mais je ne sais pas du tout ce qu'il en a été. On peut imaginer tout et n'importe quoi.
Et là, c'est le grand spectacle qui commence. Hein. C'est là où arrive un autre chercheur qui, lui, va, Jean Dargoun, pour ne pas le nommer, qui est un prophète, qui va spiritualiser toute cette affaire, hein, puisque... On y trouve aussi, bien sûr, des soucoupes volantes, des vaisseaux extraordinaires, mais c'est pas les petits gris de tous les jours. C'est des divinités extraterrestres. Et puis on fait référence à un passé fabuleux. Il y aurait eu un crash de vaisseau spatial. Les extraterrestres seraient enterré ou plutôt congelé, cryogénéisé sous le Bugarach, et on attendrait qu'un autre vaisseau, qu'un autre émissaire vienne réveiller ce petit peuple. Donc le tourisme spirituel se développe sur la montagne sacrée, et très vite, en fait, on va voir le sujet se scinder en deux branches, en deux démarches. Première chose, ce que j'appellerais les sciences secrètes, c'est l'ufologie, c'est peut-être le trésor du temple de Salomon, c'est peut-être un trésor monétaire, c'est peut-être le trésor de la Bessonnière. Ça, c'est la mythologie sciences secrètes qui fait résonance à la mythologie de Rennes-le-Château. Et puis, il y a un autre courant qui se développe et qui est le courant de l'éveil, le courant de la prise de conscience, le courant du ressourcement. Et ça, c'est un courant qui s'organise autour de Rennes-les-Bains et Bugarach.
La rumeur accourt selon laquelle notre monde serait anéanti par un ultime cataclysme le 21 décembre 2012. On n'a pas l'heure exacte, mais enfin ce serait ce jour-là. Et le Bugarach serait épargné. Le calcul aurait été fait selon le calendrier Maya, lequel présente une certaine complexité. Bernard Cocampo sur France Culture, dans la matinée des autres du 12 décembre 1978.
Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le calendrier Maya était un calendrier qui permettait qu'au-delà d'un certain nombre d'années, notamment au bout de 104 ans, eh bien, nous parvenions à un temps juste. Il y avait le jour qu'ils appelaient Kin. Il y avait le mois qu'ils appelaient Winal. Et le mois, du reste, comprenait 20 jours. Et ces 20 jours, semble-t-il, sont venus des 20 doigts, de pieds et de mains, d'après ce que l'on peut se voir. Et puis ensuite, ils passaient au Toun. Le Toun, c'est l'année qui a 360 jours. Ensuite, il y avait les Katoun, ces fameux Katoun qui étaient égaux à... qui égalaient 20 Toun, c'est-à-dire à peu près 7200 jours, c'est-à-dire 20 années Maya. Alors on peut continuer, il y avait après ce qu'on appelait les Batoun qui égalaient 20 Katoun, il y avait les Bitoun et nous pourrions continuer, mais à ce moment-là en rentrant dans une terminologie qui serait un petit peu compliquée.
Yves Lignon, vous êtes universitaire,
oui,
mathématicien.
Fier de l'être, mathématicien intégriste.
Oui, et vous vous penchez aussi sur les phénomènes paranormaux, volontiers.
Oui, ce qu'on appelle en général le paranormal, même l'étrange plus largement, ce qu'on qualifie quelquefois de surnaturel, c'est un mot qui d'ailleurs n'a aucun sens scientifique, mais qui situe bien les phénomènes dans l'esprit des gens.
Alors que se passe-t-il au Bugarach, Yves Lignon ?
Autour du Bugarach, il y a une espèce de maelstrom, de tourbillon depuis quelques mois, Eh bien, on prétend que le 21 décembre 2012, c'est la fin du monde, la planète disparaît. Il n'y aura qu'un seul endroit qui subsistera, c'est le village de Bugarache. Donc, si l'on veut survivre à ce tsunami des tsunamis, c'est au Bugarache qu'il faut se réfugier.
Et cette date du 21 décembre 2012, elle est déterminée, semble-t-il, par un calcul sur le calendrier Maya, sur un des calendriers Maya.
Mais elle ne repose absolument sur rien. Hein. Autant que je sache, le calendrier Maya, comme tous les calendriers, est un calendrier cyclique. Notre calendrier est divisé en cycles, le jour 24 heures, la semaine 7 jours, le mois 12 mois dans l'année, puis on recommence une année. Bon, le calendrier Maya est construit exactement sur le même principe, parce que la nature elle-même est cyclique. Et donc, simplement, il est beaucoup plus compliqué que notre calendrier usuel. Résultat, quand les gens veulent faire des calculs à partir du calendrier Maya, ils se trompent. Et donc, dans le calendrier Maya, il y a l'annonce de la fin d'un cycle, comme dans notre calendrier, il y a l'annonce de la fin de l'année, avec les fêtes de fin d'année. Puis
après tout, on a le calendrier voilà, de l'année suivante, voilà, apporté par les pompiers ou le facteur.
Voilà, de même, dans le calendrier Maya, la fin d'un cycle est annoncée, et ça veut dire que notre cycle recommencera, mais le cycle actuel se finit dans quelque chose comme 220 ans. Donc les gens qui ont voulu utiliser le calendrier Maya pour pronostiquer la fin du monde se sont trompés, premièrement, parce que la fin d'un cycle, ce n'est pas la fin tout court. Et deuxièmement, ils ont fait des erreurs de calcul.
Je pense vraiment que le mot de fin du monde, il est vraiment pas juste du tout. Il est absolument pas juste. Parce que, et là, il y a beaucoup de livres. Moi, je vous conseille de lire un livre, je veux bien le citer, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est Greg Braden, qui est un scientifique, qui a écrit Le temps fractal, Greg Braden. Et il explique beaucoup ce qui se passe. Et, bon, c'est vraiment du domaine scientifique, par l'abord scientifique. Et c'est en fait un cycle qui se termine, simplement. C'est-à-dire on est doucement en train de changer. Donc de changer, on pourrait dire, de vibration, de dimension. Et vous voyez bien que ça se passe dans les événements. Ça se passe dans les événements sur la Terre. Il y a des choses qui bougent. Ça se passe chez les gens. Les gens commencent à ne plus accepter les différents systèmes, qu'ils soient politiques, médicaux, religieux. Enfin, il y a vraiment une montée en puissance de mouvements différents. On voit ce qui se passe dans les pays arabes, etc. Donc, comme on est en fait dans un passage d'énergie très important, vous voyez le vent qu'il y a ici. Il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de pluie, c'est beaucoup tourmenté. Et je dis, c'est sûrement pas l'endroit où il faut être si vraiment il se passait quelque chose. Parce que ça va bouger encore plus ici. Donc ça me fait sourire.
A priori, je trouve que c'est tout à fait inquiétant au niveau de ce qui constitue la pensée humaine. Ce n'est pas du tout un jugement de valeur, je ne parle pas de secte, je ne suis pas anti-secte, mais je dis simplement que se développent ce genre de croyances qui ne sont basées sur absolument rien de constatable, de vérifiable, de concret, c'est la porte ouverte à tous les délires, sans aucun contrôle, et des gens qui finalement se mettent eux-mêmes en danger, à la fois au niveau psychologique, au niveau, mais aussi au niveau physique.
Il n'en reste pas moins, Alain Pasty, Marie-France Garot-Pasty, que vous-même avez vécu au moins une expérience étrange, pour le moins, du troisième type.
Alors, oui, effectivement, on a vécu quelque chose. On a vécu quelque chose et tout à fait sincèrement, je dirais, nous, on n'avait rien demandé. Hein.
Je crois que ça commence lors d'une promenade nocturne fin août 2009.
Oui, à Rennes-le-Château, précisément. On vient d'aller dîner au restaurant. Il fait beau, c'est l'été. Je dis à Alain, on va aller voir le Bugarache une dernière fois. Donc, c'est en hauteur. Hein, on prend une petite route qui monte en lacet et on arrive sur... sur le haut de Rennes-le-Château. Et donc ce soir-là, mais vraiment pour rire, hein, je dis à Alain, on a une torche dans la voiture. Si on faisait des signaux, ce serait drôle. Et très étrangement, on voit des lumières sur Bugarache. Et là, on n'a pas bien compris, parce qu'on s'est dit, c'est pas possible que notre lampe torche, elle est portée si loin, c'est pas possible qu'on l'ait vue, c'est pas possible qu'on nous réponde, bon... Mais il n'y a pas de route sur le Bugarache, donc ça ne pouvait pas être des phares de voiture. Et on a un petit peu joué comme ça. On a joué avec notre pendule qui faisait n'importe quoi, mais comme on n'y croit pas non plus trop, disons qu'on s'est amusé. Et puis au bout d'un petit moment, on a dit, bon, bah, maintenant on va descendre, et on descend cette route, vous verrez comment elle est. Et je dis à Alain, on s'arrête une dernière fois. Et on s'arrête sur le bord de la route. Et au moment, donc je sors de la voiture la première, et Alain sort derrière moi. Et au moment où je traverse la route, avant d'arriver sur le bas l'autre côté de la route pour voir le Bougarache, je suis attirée par une lumière sur ma gauche. Je vois ce que pendant une seconde j'ai pris pour quelqu'un qui montait la route, puisqu'il y avait beaucoup de gens de va-et-vient, avec une lampe torche. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, gosse, on faisait ça assez souvent, on tenait la lampe torche sous le visage et ça faisait un visage qui faisait peur un peu. Et pendant une seconde ou deux, j'ai cru que c'était ça. Et la seconde suivante, je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout. Donc je me suis figée sur place, je me suis vraiment tournée. C'était plutôt de l'ordre de l'image, pas quelqu'un, un être humain comme vous, comme moi, quelque chose de dense, hein. Plutôt une image lumineuse qui avait une forme tout à fait humaine, d'une taille, moi je suis petite, je vois les gens un peu grands, mais on va dire plutôt moyenne. La seule chose qui m'a frappée, c'est que le haut du crâne était pas rond comme le nôtre, mais légèrement ovoïde, légèrement. Cette entité, on va l'appeler comme ça, s'est avancée, c'est-à-dire qu'elle a glissé sur la route. Elle marchait pas.
Elle est venue vers nous.
Et en fait, il se trouve qu'arrivée à 4 mètres de moi, ça on l'a mesuré après, moi j'ai eu peur. Donc j'ai fait demi-tour, on est rentré dans la voiture, et quand on s'est assis dans la voiture, il n'y avait plus rien en face de nous. Et à partir de ce moment-là, on s'est décrit l'un l'autre ce que nous avions vu. C'est à ce moment-là qu'on s'est fait la description. Et on a remarqué qu'on avait vu globalement la même chose, et dans le détail, non.
Beaucoup de choses se sont développées autour de Bugarache. L'ufologie, le développement personnel, le channeling. Et ce développement, on l'observe vraiment depuis les années 2000, avec notamment Jean Dargoun, qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur Bugarache. Beaucoup plus récemment, il y a eu le livre « L'appel de Bugarache » de Jenny Rivière, qui est un succès de librairie incroyable. L'observation qui se passe, c'est que énormément de petits groupes se sont développés, sont montés en puissance autour de Bugarache, entraînant des séminaires, des stages, des montées, mais malheureusement, très souvent, avec un fonds monétaire, un fonds financier requis, c'est-à-dire que pour monter au Bugarache, on va vous demander 500 euros pour pouvoir vous éveiller les sens, vous éveiller les chakras.
Thomas Gautin, vous avez mené un travail universitaire en anthropologie pour l'université Toulouse-Le Mirail sur notre sujet, le Bugarache.
J'ai fait plusieurs séjours à Bugarache, non sans crainte. C'est-à-dire que j'avais quand même pas mal de préjugés, j'étais pas forcément à l'aise avec les stagiaires, les organisateurs, notamment quand on m'amenait dans des forêts la nuit pour faire des rituels un peu bizarroïdes, où on me disait que des elfes et des lutins m'observaient. Bon, j'étais un petit peu inquiet, même si il m'est jamais rien arrivé. Et puis petit à petit, je me suis senti à l'aise, bien entendu, puisque les organisateurs de stage ont commencé à me connaître, ont commencé à me faire confiance. Le but du jeu, c'est qu'on se sente en confiance totale et qu'on se livre aux autres. Donc il va y avoir des pratiques où on se retrouve dans une clairière et il faut se recentrer. Donc là, on part sur de la méditation active. On fait appel à des mémoires antérieures, etc. Ou on pense faire appel à des mémoires antérieures. Et on va les communiquer avec tel arbre, on va les communiquer avec tel stagiaire, on va essayer d'aller ressentir l'énergie de l'autre. Ça fait des pratiques complètement syncrétiques, c'est-à-dire qu'elles vont mélanger le néopaganisme, on va dire que l'arbre nous parle, en mélangeant ça avec des techniques de méditation tirées parfois du yoga, ou du tai chi ou du qigong, ça dépend des organisateurs. Et puis surtout, partager après les émotions.
Il n'y avait aucun bruit, mais un silence comme on en a rarement, c'est-à-dire un vrai silence absolu. Et nous sommes donc encore en hauteur, donc la route que nous rejoignons est en contrebas, et je vois des lueurs, je dis à Alain stop, et il stoppe. Et là nous avons vu donc tous les deux, alors on appelle ça des ovnis, j'en sais rien, trois objets on va dire. Non identifiés, trois, très grands, lumineux, de forme elliptique. Et pour moi, donc cette forme elliptique était délimitée par une large bordure, on va dire, orangée. C'était statique, Là encore, pour moi, c'était pas quelque chose de solide, c'était plus de l'ordre de l'image. Et ça bougeait pas, il n'y avait pas un bruit, pas un son. Et au bout d'un petit moment, ça a commencé à légèrement vibrer, onduler, et à se déplacer, mais très très lentement. Et tout d'un coup, il n'y avait plus rien.
Vous avez fait des observations bizarres et étranges, personnellement ?
Non, j'ai fait absolument aucune observation bizarre. Peut-être que les gens étaient bizarres, oui.
Et ça s'effectue dans une relative discrétion, j'imagine ?
Ça s'effectue par le biais de réseaux.
Mais on est sur le domaine public.
On est sur le domaine public.
N'importe quel promeneur pourrait venir assister fortuitement.
Tout à fait.
Au rituel.
Tout à fait. J'ai moi-même été confronté lors d'un rituel sur les Roches Tremblantes, qui est un lieu mythique à côté de Bugarach, qui est situé à Rennes-les-Bains. Nous étions en méditation. Il y a donc les Roches Tremblantes, c'est des pierres énormes qui tiennent apparemment de façon magique, qui auraient été utilisées par les Atlantes. Voilà, et donc ces fameuses Atlantes utilisaient ces portes pour voyager dans d'autres dimensions. Et lors donc de ces rituels, où chacun passait donc entre ces deux rochers, se mettait en méditation, certaines personnes ressentaient des picotements. Moi, j'y suis passé. Quand je suis sorti, des promeneurs m'ont accosté en me disant « Mais qu'est-ce que c'est ? C'est le temple du soleil ?» Forcément, il y a cette...
C'est la question qu'on se pose.
Il y a cette question. Je dis « Bah non, c'est pas une secte, parce que les gens ont l'air... Après, rentrent chez eux, ils sont pas forcément détachés de leur famille ou de leur vie quotidienne. Ça, c'est la grosse différence. Mais c'est sûr que ça suscite beaucoup de curiosité.
Jenny Rivière, on a passé le sommet, ça y est. 1230 ou 1231 ouais. Mètres. On n'a pas pu enregistrer là-haut à cause du vent. Il y a souvent du vent.
Oui, c'est souvent comme ça. Oui, même beaucoup, beaucoup de vent. C'est un climat assez tourmenté. Oui, beaucoup de pluie aussi. Et puis parfois, c'est complètement opposé. Tout s'arrête. Et là, c'est un climat assez surprenant. C'est comme s'il y avait une suspension dans le temps. Il n'y a plus rien du tout, même pas un seul souffle. Et bon, on pourrait dire que c'est très agréable d'être là à ce moment-là.
Vous suggériez que cette montagne était en permanence explorée.
Oui, on sait qu'il y a des gens qui cherchent des choses, mais ça c'est comme le phénomène de Rennes-le-Château. Hein. Il y a des gens qui creusent un petit peu dans les collines, sous les montagnes. Et bon, nous on n'adhère pas non plus du tout à tout ça, parce que ça, disons qu'il faut penser un peu autrement là, par rapport à cela. Disons que cette montagne... moi je pense vraiment que c'est un endroit absolument merveilleux, parce que c'est, on pourrait dire, multidimensionnel. Il y a énormément d'autres plans de réalité, d'autres dimensions, et ici tout est au même endroit. Donc c'est pour ça que les gens peuvent percevoir certaines choses et on pourrait dire passer dans d'autres dimensions.
Et qu'est-ce qui vous rend si certaine, finalement, Jenny Rivière, qu'il n'y a pas quelque chose de très, très bizarre en dessous ?
Ah ben ça, je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. Non, du tout. J'en ai absolument aucune idée.
Et de fait, des gens cherchent quelque chose. Et depuis
Oui, depuis longtemps. Oui, certainement. Je ne suis pas au courant de tout ça. Non, mais vraiment, pas du tout.
Sûrement que si,
un petit peu. Non, du tout. Vraiment pas du tout. C'est pas une chose qui m'intéresse, ça. Non, ça ne m'intéresse pas.
Donc on y est retourné à la nuit, à Rennes-le-Château, on s'est garé au même endroit exactement. Et moi je me suis dit, bon, je vais méditer, j'ai l'habitude, comme ça au moins j'aurai pas peur. Et puis à ce moment-là, mais c'est mieux que ce soit Alain qui vous raconte, parce que cette soirée-là lui était particulièrement destinée. Ben oui, tu peux.
Alain Pastille. Ce soir-là, on est retourné exactement au même endroit. On est resté dans la voiture, par contre, et puis au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que l'arbre qui était en face de nous, il faut préciser qu'il y a une sorte d'axe entre la voiture et le mont Bugarach, et au milieu de cette trajectoire, il y a un arbre. Voilà. Je regarde l'arbre et très rapidement, cet arbre va se remplir de boules de lumière, de boules lumineuses, de boules d'intensité différente. Elles vont être très très nombreuses, peut-être, je sais pas, une centaine. Il y en a certaines qui sont transparentes, on voit l'arbre à travers. Il y en a d'autres au contraire qui cachent l'arbre, donc une très grande variété. Et puis mon regard se porte légèrement sur la gauche, sur la route. Sur la largeur de la route, j'ai l'impression de voir arriver une sorte de vague. Ça ne semble pas être de l'eau. La manière la plus claire pour en parler serait de dire que j'ai l'impression que c'est une vague d'énergie qui arrive le long de la route, qui englobe la voiture et qui nous englobe nous avec, puisqu'on est dans la voiture. Et au bout de quelques instants, j'ai l'impression d'être touché, palpé sur l'ensemble du corps. Et puis cette vague va refluer. Et pendant tout cet épisode, Marie-France, qui s'est mise en méditation, est à côté de moi. Et moi, je lui raconte ce que je ressens au fur et à mesure que je le ressens.
Et c'est agréable, les palpations ?
C'était pas agréable ni désagréable. En souriant, j'aurais plutôt tendance à dire que c'était pas une entité féminine et que ça n'avait rien d'érotique. Peut-être, hélas, en fin de compte. Hein. Et puis, lorsque la vague se retire, la seule sensation physique qui me reste, c'est des picotements au bout des doigts.
Quelle opinion vous avez finalement, Thomas Gottin, de ce que vous appelez cette nébuleuse mystico-ésotérique?
Alors, on est dans une dynamique de réenchantement du monde. On sort plus ou moins, on est encore dans l'ère du rationalisme scientifique, ça c'est clair. On a voulu occulter tout ce qui était cette dimension magico-religieuse, mais elle est en train de revenir. Elle est en train de revenir au galop. 2012, on est l'exemple parfait.
Mon inquiétude, c'est la suivante. Je redoute qu'il arrive 5 ou 10 ou 20 000 personnes pour le mois de décembre 2012, parce que je ne pourrais pas gérer cet afflux de population, hein, en tant que maire. Voilà.
Et vous craignez un tel afflux?
Je suis interrogatif, là. Je vais regarder ce qui va se passer pendant l'année 2011, là. On a déjà un thermomètre, si je puis dire, qui nous donne des indications. À savoir que sur un des sentiers du pic, nous avons mis un compteur. Donc, en 2009...
Qui comptabilise
les gens qui montent au pic. Donc, en 2009-2010, jusqu'en juin 2010, il était passé... il y avait eu 10 000 passages. Et là, de juin 2010 à on est allé au mois de février, il y avait déjà 16 000 passages. Et le deuxième point serait que ce phénomène serait repris par des sectes apocalyptiques où on se retrouverait avec des gens qui viendraient ici pour, entre guillemets, péter les plombs et avec des suicides collectifs qu'on a vus, comme on a vu au Brésil, aux États-Unis et même chez nous en Isère. Voilà les seuls points sur lesquels je suis inquiet. Ensuite, je suis très satisfait parce que ça nous amène un tourisme d'intérêt. Pour ça, ça sera très profitable. Et la fin du monde, justement, peut-être ça sera nous un nouveau monde pour notre village à partir de 2012.
Les terriens seront translatés, téléportés dans le cœur du vortex et immédiatement rematérialisés sur la planète Arca. Cela peut sembler fantastique, mais ne l'est pas plus que l'imaginaire résurrection des chrétiens. Jean d'Argoun.
Bugarache ou les secrets du vortex. Avec Jean-Pierre Delors, maire de Bugarache, Marie-France Garaud-Pasty et Alain Pasty, auteur de Une déchirure dans l'espace-temps aux éditions du Temps présent, Thomas Gottin, auteur de Le phénomène Bugarache, naissance d'un mythe aux éditions L'œil du sphinx, Pierre Guillain, géobiologue, Yves Lignon, mathématicien, Nicolas Marlin, libraire à Rennes-le-Château, Philippe Marlin, éditeur, Jean-Luc Rivera, organisateur des rencontres de l'imaginaire de Sèvres, Jenny Rivière, auteur de L'appel du Bugarache aux éditions des Trois-Monts. Texte lu par Jean-Louis Dumiomendi, Extrait du film Le Grand Mystère, réalisé en 1996 par Jimmy Guieux. Merci à Jérôme Schrepf de la Dépêche du Midi, à Irène Omelianenko de France Culture, à Joël Diaz de la Direction de l'Aviation Civile à Montpellier, à Guy Lothaire des Repas Ufologiques de Paris, à Jean Dargoun et André Douzet. Archivina, Véronique Jolivet et Anne Delaveau, attachée de production Christine Gedge et Laure-Hélène Planchet, prise de son et régulation du Vortex, Gilles Gallinaro et Bernard Quentin, mixage Bruno Martin. Sur les docks, Rafik Zénine, Olivier Chaumet.
Ainsi s'achève notre année radiophonique. Toutes celles et ceux liés à ce territoire documentaire vous remercient pour votre écoute et vos messages. Rendez-vous fin août pour une nouvelle année documentaire et rendez-vous chaque soir à 21h pour nos rediffusions estivales. Bel été à vous